Chers frères et sœurs, nous avons conclu aujourd'hui cette fameuse démarche synodale en diocèse avec des représentants de nos paroisses, de nos mouvements et associations de fidèles, de nos services et de nos communautés religieuses. Nous avons partagé pendant toute cette année, à la demande du Saint-Père, sur le thème de ce grand synode des évêques qui aura lieu en octobre 2023 et qui est, pour une église synodale, communion, participation et mission. Le pape François voulait en effet organiser une large consultation de l'ensemble du peuple de Dieu dans toutes ses composantes, pas seulement les évêques, qui récapituleront toute cette démarche avec le pape, mais les fidèles laïcs, les consacrés, les diacres et les prêtres, qui constituent tous ensemble, dans leur diversité, l'unique peuple de Dieu, l'unique corps du Christ qu'est l'Église. Nous avons tous bien compris que le but, l'objectif de cette démarche synodale sur la synodalité, selon ce mot un peu barbare, qui veut simplement dire que nous marchons ensemble, c'est plus simple à dire, non ? C'est la mission, c'est l'annonce de l'Évangile à toute la création, comme le Christ Jésus nous en a fait le commandement au jour de l'Ascension. Allez proclamer l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas, c'est-à-dire celui qui refusera de croire, sera condamné. L'Église existe non pas pour fonctionner, elle existe pour évangéliser. Mais nous avons bien conscience que nous sommes tous appelés dans la diversité de nos charismes, de nos ministères, de nos états de vie. Nous sommes tous appelés à participer à cette mission d'annoncer l'Évangile. Chacun a la place que Dieu lui a donnée dans l'Église et dans le monde. Chacun, avec la grâce de l'Esprit-Saint qu'il a reçue au jour de son baptême et au jour de sa confirmation, comme un achèvement du baptême. Et nous avons bien conscience aussi que cette mission à laquelle nous sommes tous appelés à participer doit s'enraciner dans la communion. L'Église est une communion et elle montre trop souvent au monde le visage de la division. Nous nous épuisons en discussions stériles, comme le dit le pape François dans la prière du synode que nous avons prononcée ce matin. Au début de cette journée synodale, nous nous divisons sur nos sensibilités, nos différences, qui deviennent des lieux d'opposition. Nous ergotons sur les questions de fonctionnement, de pouvoir, de compétition. Nous sommes sans cesse à nous lamenter des dysfonctionnements et pas assez de rendre grâce pour les merveilles que Dieu fait sans cesse dans son Église, pour l'histoire qu'il fait avec chacun et chacune d'entre nous, avec nos communautés, avec l'Église qui est un corps rassemblé. L'unité de l'Église, qui n'est pas d'abord le fruit d'une négociation, mais qui est le fruit de l'Esprit-Saint, unis dans le nom du Christ, unis dans le nom de Jésus, qui veut dire le Seigneur sauve, car c'est là le grand défi qui se présente à l'Église de tous les temps et à l'Église d'aujourd'hui. Comment est-elle l'instrument du salut? Comment annonce-t-elle l'Évangile du salut à tous les hommes? Avons-nous conscience? Mais oui, nous avons conscience, puisque nous vivons avec les hommes et les femmes de notre temps, que la grande majorité de nos contemporains ne connaît pas Jésus-Christ, qui est seul le chemin, la vérité et la vie. le seul chemin qui conduit à la vérité tout entière et à la vie en abondance et en perfection au-delà de la mort, la vie éternelle que Jésus est précisément venu donner, proposer à tout homme. Vous comprenez pourquoi il est significatif que cette clôture du synode que nous avons accomplie aujourd'hui à travers cette assemblée synodale soit cette messe où nous entourons plus d'une trentaine d'adultes et de grands jeunes, étudiants ou lycéens, qui vont recevoir le sacrement de la confirmation, qui vont recevoir le Saint-Esprit en abondance et en plénitude pour être des adultes dans la foi, c'est-à-dire non seulement des chrétiens forts, qui savent trouver dans leur cœur la force même de l'Esprit-Saint pour assumer leur vie humaine dans toutes les épreuves et les difficultés que tous nous sommes appelés à traverser, dans les combats aussi, contre nos doutes, ce que le monde nous engendre en nous souvent, contre les tentations aussi, qui nous écartent de Dieu si facilement, trouver cette force pour demeurer ferme, y compris dans les épreuves, quand Dieu paraît tellement absent, qu'il reste tellement silencieux, alors que nous le supplions et nous l'implorons. Mais il est toujours là. Chers confirmants, je l'ai lu dans vos lettres, c'est pourquoi j'ai des antisèches, parce que j'ai noté des phrases qui me sont venues, je ne pourrais pas toutes les répéter, ce serait trop long, et puis j'ai plus de voix. Mais c'est magnifique de voir comment vous aussi, chers confirmants, qui avez été baptisés, mais qui vous étiez peut-être éloignés de la foi, parce que vous n'aviez pas forcément grandi dans un milieu chrétien, vous avez même, pour certains d'entre vous, grandi dans un milieu hostile à la foi chrétienne, anticlérical, comme vous le dites parfois dans vos lettres. Et puis vous avez connu des épreuves qui ont pu vous éloigner encore plus, et des épreuves qui ont pu, pour d'autres, vous rapprocher. Vous avez marché ensemble, vous avez cheminé ensemble pour préparer cette confirmation avec des accompagnateurs, avec des chrétiens, avec des communautés paroissiales, des aumôneries, d'étudiants ou de lycéens. Vous avez eu besoin de l'Église. Et l'Église a prophétisé sur vous. Elle a annoncé la parole de l'Évangile. Ce peut être un ami, très cher, une tante religieuse, une maman, comme quelqu'un me le dit. Ma mère est la personne qui m'a donné le plus envie de prier et d'avoir une relation avec Dieu. On ne soupçonne pas, chacun à sa place, dans sa famille, dans sa paroisse, dans son travail, dans ses études, comment nous pouvons être des témoins et des prophètes de la parole de Dieu. Certains ont prophétisé pour vous, alors que vous étiez parfois très loin. Je lis par exemple un très beau témoignage. Il faut que je le retrouve, c'est tout. J'essayais de survivre dans la rue, me dit l'une d'entre vous. Je ne voyais aucune lumière. C'était le gouffre. Je faisais même beaucoup de mauvaises choses et je n'étais pas fier. Le Seigneur m'a appelé à lui grâce à ma fille qui est allée au catéchisme et je suis allé au catéchisme avec elle et j'ai commencé un chemin et j'ai trouvé dans le Christ la guérison de toutes mes blessures. En 2014, ma maman est décédée et sa mort m'a ramené à la messe tous les dimanches. J'ai fait le parcours alpha, j'ai fait ma communion et aujourd'hui je demande ma confirmation. Une autre qui me dit « J'errais dans la vie et je suis rentré à la cathédrale, j'ai fait une confession générale, ça a été une libération totale, je me suis laissé envahir par l'amour de Jésus-Christ, il a consolé mon cœur du désespoir, ma vie a été transformée. » En 2012, une autre m'écrit « Mon père est décédé et je me suis fâché avec Dieu. J'avais tellement encore besoin de lui pour me construire. L'accueil bienveillant de ma souffrance par mon oncle m'a enlevé toute colère. Je suis entré à la cathédrale, j'ai trouvé un prêtre disponible qui m'a dit « Dieu vous aime, je me suis confessé et j'ai rencontré le Christ. D'autres témoignages, beaucoup plus, n'est-ce pas, que je pourrais vous lire, mais je ne vous ai pas être trop long. Voyez, chers confirmants, comme je pense que cette parole de Jésus dans l'Évangile résonne dans votre cœur, car vous en avez fait l'expérience d'une manière tout à fait unique et singulière, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, car de son sein couleront des fleuves d'eau vive, n'est-ce pas, que c'est souvent l'expérience que vous avez faite de la rencontre avec Jésus, grâce à un ami, grâce à une communauté, grâce à un prêtre, grâce à une fille, une mère, une tante, qui a prophétisé pour vous, c'est-à-dire qui a annoncé l'évangile du salut, non seulement par son témoignage, mais même par la parole qui a été prononcée. Comme je pense bien que nous tous, mais vous particulièrement, qui pour certains vous êtes éloignés jusqu'aux périphéries existentielles de l'humanité, comprenez cette vision d'Ézéchiel qui se réalise aujourd'hui, car elle annonçait précisément le grand mystère de la Pentecôte qui va s'accomplir pour vous aujourd'hui, car votre confirmation, comme disait Saint Jean-Paul II, à des confirmants adultes en Afrique, je crois que c'était en Côte d'Ivoire, votre confirmation, c'est votre Pentecôte pour la vie. Vous avez fait l'expérience de ces ossements desséchés. Votre vie à un moment semblait vide, parfois détruite. Et tout à coup, en prophétisant sur vous, l'Esprit Saint vous est donné. Et l'Esprit Saint vous revivifie. L'un d'entre vous me dit, en reprenant tout simplement les paroles du Credo, « Je demande d'être confirmé pour recevoir l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il est le seul, dit encore un autre, qui peut m'aider, me soutenir sur la route de la vie. » Vous avez compris, pour avoir rencontré Jésus-Christ vivant, qui vous a consolé, qui vous a pardonné, qui vous a encouragé, qui vous a fortifié et qui va vous fortifier encore plus aujourd'hui par le sacrement de la confirmation. Vous avez compris que vous ne pouvez pas garder cette joie pour vous-même. Et si vous avez bénéficié du témoignage de vos amis, de vos parents, de vos accompagnateurs, de l'Église, eh bien vous êtes appelés vous aussi à vous engager pour être des missionnaires, des témoins de cette rencontre qui a transformé votre vie. Vous savez, vous, comment Jésus peut transformer la vie d'un homme, d'une femme qui est profondément blessée et qui reste sur le bord du chemin avec ses questions, ses doutes, ses angoisses. Chers frères et sœurs, nous entourons ces confirmants aujourd'hui pour qu'ils deviennent, par la grâce de l'Esprit-Saint, des êtres vivants de la vie de celui qui est un Dieu vivant. Leur foi, qui va être affermie aujourd'hui par le don de l'Esprit-Saint, n'est pas seulement un savoir, même si c'est très important de connaître celui en qui nous mettons notre confiance, mais c'est une relation personnelle d'amitié avec un Dieu qui n'est pas seulement une idée, avec un Christ qui, s'il est mort, est ressuscité, qu'il est toujours vivant à côté de nous, comme il nous l'a promis. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, au cœur même de nos épreuves et de nos doutes. Nous les entourons de toute notre prière. Nous demandons aussi au Seigneur de renouveler la grâce de notre confirmation. Nous lui demandons aussi, parce que nous faisons souvent l'expérience de ces ossements desséchés. Nous sommes parfois en crise, nous sommes parfois dans la mort, nous sommes parfois tellement loin de Dieu. Et pourtant, nous avons été baptisés, nous avons été confirmés, nous avons fait un moment ou l'autre de notre vie l'expérience de l'amour de Dieu qui nous a mis debout pour marcher vers lui avec nos frères et nos sœurs. Alors, il est significatif aussi qu'à la fin de cette célébration, j'envoie en mission de manière officielle les membres du parcours Cléophas, qui est une école de formation de disciples missionnaires, de baptisés qui ont fait l'expérience de l'amour de Dieu en Jésus-Christ et qui veulent, dans leur vie quotidienne, être des prophètes de la parole de Dieu, des témoins de son amour auprès de tous ceux qu'ils côtoient, et en particulier de ceux qui sont loin. Ils ont pendant 3 ans, puisque le Covid a rallongé ce parcours Cléophas qui dure seulement 2 ans, ils ont pendant 3 ans approfondi cette rencontre. Et ils portent dans leur cœur le désir d'être des disciples missionnaires dans leur communauté. Ils vont eux aussi renouveler l'Esprit Saint de leur confirmation. En cette vigile de Pentecôte, ils vont recevoir une bénédiction qui va les envoyer en mission. Amen.